Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello, guten tag, salam, buenos dias, namaste, buongiorno, yaoran, tachidelek, ou alors sani bonani, ça c'est en zoulou. Est-ce que je vous ai déjà remercié pour votre fidélité, pour votre enthousiasme, l'intérêt que vous portez à cette émission et au travail évidemment de toute notre équipe? Eh bien si je l'ai déjà fait, tant pis, je recommence et je vous promets que ça n'est pas terminé. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour sur l'antenne d'RTL à partir de 15h. Bonjour Marcel Ichoui.
Bonjour my dear Duchess.
Oh là là, my dear Duchess. Alors là, si tous les jours vous m'en rajoutez un peu, là, je pense que je vais prendre la grosse tête. Qu'est-ce qui vous arrive, Marcel? Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français? Et que bon, la langue
un petit
de,
peu
de
l'anglais,
l'amour,
mais hein. pas très bien.
Vous n'êtes pas bilingue.
Pas bilingue, pas.
D'accord.
Non. Et puis un petit peu de tas d'autres langues, mais un tout petit peu.
D'accord.
Je picore, je suis un picoreur de langues.
Sans blague. Oui, bah aujourd'hui, effectivement, nous allons parler du bilinguisme. Si la moitié de la population mondiale est bilingue ou plurilingue. Et si le bilinguisme séduit de plus en plus les parents, vous savez qu'élever son enfant en plusieurs langues relève encore du défi sociétal. Alors, quels sont les atouts, justement, du bilinguisme? Quels sont les conditions qui permettent cela? Un petit français peut-il devenir bilingue en apprenant une langue étrangère? Nous recevons aujourd'hui Barbara Abdelila Bauer. Elle est psychosociologue, elle est cofondatrice d'un jardin bilingue, elle est maman de 3 enfants plurilingues, ça en fait des choses sur vous quand même, et elle est auteure de l'ouvrage Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues aux éditions La Découverte. Barbara Abdelila Bauer, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un sujet, je peux vous le dire, qui a déjà énormément intéressé nos internautes qui nous sont fidèles, qui nous ont déjà laissé énormément de messages. On sent que c'est une question qui taraude beaucoup de nos auditeurs. Mais juste avant de parler de tout ça, est-ce qu'on peut véritablement définir le bilinguisme? Il s'agit de quoi en fait?
Mais ça c'est une très bonne question. C'est vraiment la question à se poser. Le bilinguisme n'existe pas. Le bilinguisme, comme il n'existe pas. Souvent on imagine le bilingue comme quelqu'un qui maîtrise parfaitement deux langues. On a cette image, on a comme si on avait deux tiroirs dans la tête. Dans un tiroir, il y a la langue maternelle. Dans l'autre tiroir, il y a la seconde langue. Ça n'existe pas. Donc, déjà, ce que le bilinguisme n'est pas, ce n'est pas une personne qui serait deux monolingues en une personne. Voilà.
D'accord.
Le bilinguisme, c'est la compétence, disons, c'est la capacité de se servir de deux langues ou de plusieurs langues au quotidien dans des situations naturelle, quotidienne, tous les jours. Donc, on met l'accent sur la communication. Savoir communiquer en plusieurs langues et avoir besoin de communiquer en plusieurs langues.
On a reçu différents messages, et notamment un message de Yabi sur Facebook. Oui, au bilinguisme, mais pas seulement avec l'anglais, l'allemand ou d'autres langues nationales, oui, mais aussi avec des langues régionales, avec le breton, avec le corse, avec le basque. Et puis, il nous envoie une petite devinette que vous connaissez peut-être en tant que spécialiste. Comment appelle-t-on une personne qui parle plusieurs langues un plurilingue? Comment appelle-t-on une personne qui parle 3 langues un trilingue? Comment appelle-t-on une personne qui parle 2 langues un bilingue? Et comment appelle-t-on une personne qui parle une seule langue un français?
Voilà.
Alors Barbara, est-ce qu'en France, le bilinguisme fait encore figure de marginalité? Est-ce qu'on est un petit peu en retard, nous, par rapport à cette idée?
Il m'est difficile de répondre à ça parce que moi, je baigne dans le bilinguisme, dans ce milieu plurilingue tous les jours, de par mon activité, par mon association, etc. Donc moi, je pourrais dire que non, le bilinguisme concerne énormément de monde en France, et pas seulement à Paris, surtout le plurilinguisme, parce que bon, bilinguisme, c'est un peu une exception. Mais c'est vrai que on pourrait dire que ce n'est pas encore complètement entré dans les mœurs, c'est pas quelque chose de naturel,
oui,
parce qu'il y a encore énormément de préjugés, d'idées reçues sur les méfaits du bilinguisme. Un enfant, par exemple, qui grandirait avec autre chose que l'anglais, avec le français et le breton, ou le français et l'arabe, on dit même pas qu'il est bilingue, on dit qu'il a des problèmes. On parle sur tous les problèmes.
Non, mais c'est intéressant. On reviendra sur toutes les idées reçues, hein, évidemment, à ce sujet. Pourquoi est-ce que dans les années 1960, le bilinguisme était-il presque déconseillé?
Ah, jusqu'aux années 60. Mmh. Parce que tout simplement, il y a eu très peu de recherches, et les recherches qui existaient, des recherches américaines, ont étudié les compétences en langue anglaise, donc aux États-Unis, oui. chez des enfants d'immigrés qui venaient d'immigrer et qui commençaient à apprendre l'anglais. Donc forcément, on a trouvé que leur seconde langue, enfin, qu'ils n'étaient pas très compétents en anglais parce qu'ils avaient une autre langue. Mmh. Mais ça n'intéressait pas qu'ils parlaient d'autres langues. Et c'est malheureusement encore le cas en France, mais on va en reparler peut-être, par l'école française, où on ne considère pas les compétences des enfants qui parlent autre chose que le français à la maison. On a l'impression que cette langue elle est juste un problème ou un handicap, mais on ne se base pas sur ces compétences-là dans les langues maternelles qui sont parlées en France, dans les familles.
Alors, il y a plusieurs, évidemment, avantages, et on les passera en revue tout à l'heure. Ferry nous a laissé un message, et on se rend compte qu'effectivement, le bilinguisme n'est pas qu'une question de maîtrise de la langue et d'ouverture sur une autre langue, mais c'est aussi une ouverture d'esprit, d'ouverture sur un autre monde. Le bilinguisme est une richesse. Je trouve dommage que certains parents dont l'un est étranger exigent que leurs enfants ne parlent que le français. On devrait apprendre les langues étrangères à partir de la maternelle. Est-ce qu'effectivement, les enfants, plus ils sont jeunes aujourd'hui, Barbara, plus ils sont capables d'éponger finalement différentes langues étrangères ?
Oui, alors... Il y a d'un côté, il y a les langues maternelles, si vous voulez, les langues donc qui sont parlées naturellement oui. par les parents qui vivent en France, oui. autre langue que le français. Et d'un autre côté, il y a les langues étrangères. Et on dit toujours que les enfants, ou un plus jeune, plus l'enfant est jeune et plus il apprend facilement une langue étrangère. Et on dit que les enfants sont des éponges. Je suis pas vraiment d'accord avec cette expression parce que c'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de mettre un enfant face à un ordinateur oui. ou une cassette ou qui débite de l'anglais parce que c'est toujours à la mode, l'anglais est à la mode. Et il suffit pas de ça pour qu'il acquiert cette capacité de parler un jour ou de comprendre et parler cette langue. Et c'est beaucoup plus apprendre une langue, c'est plus il faut avoir la motivation, c'est l'attitude qui compte. C'est l'environnement qui compte. Donc, c'est un processus extrêmement complexe et qui fait qu'on ne peut pas dire que les enfants ont des éponges et apprennent plus facilement que les adultes.
Et c'est un environnement aussi et une aventure familiale. Oui. Sandrine nous écrit « Je vais suivre cette émission avec attention. Maman de trois garçons franco-britanniques ayant vécu en Espagne pendant quelques années. Chez nous, c'est donc le trilinguisme et ça marche. Les enfants comprennent l'anglais et l'espagnol mais répondent en français. C'est frustrant mais on s'accroche. » Parce qu'effectivement, il faut faire preuve de beaucoup de patience et d'investissement. On se retrouve, si vous le voulez, dans un instant. Ici, on va parler français, mais on peut parler toutes les langues aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à nous appeler et composer le 3210.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, à tous ceux qui réagissent très nombreux sur notre page Facebook ou au 3210, je conseille l'ouvrage « La découverte, guide à l'usage des parents d'enfants bilingues » de notre invitée Barbara Abdelila Bauer, qui est psychosociologue et qui est la maman d'enfants, justement, qui parle beaucoup de langues étrangères à la maison. Alors, il y a différents scénarios de bilinguisme. Hein. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer de façon à ce qu'on puisse déjà faire le ménage autour de nous et savoir de quoi on parle.
Oui, alors la question, comment devient-on bilingue en fin de compte ? Commençons par le jeune enfant ou par le bébé. Le bilinguisme le plus naturel, disons, c'est celui où le père et la mère parlent chacun sa langue maternelle avec le bébé. Mmh. Et ça depuis la naissance. Et cet enfant va grandir en apprenant à parler en deux langues.
Donc là, il va éponger quelque part,
oui,
en fait, parce que c'est dans son univers.
Il acquiert, on ne parle même pas d'apprentissage de la langue ou d'enseignement de la langue. Les parents transmettent leur langue. Avec cette langue, ils transmettent aussi des valeurs, des croyances, etc. Et donc, l'enfant apprend à parler, tout simplement. Il acquiert le langage, mais à deux volets, en deux langues. Là, c'est le bilinguisme précoce, donc le plus naturel, si vous voulez. Ensuite, il y a le cas de figure aussi où il y a une famille qui parle, par exemple, espagnol à la maison. Oui. Et l'enfant, dès qu'il va aller à l'école maternelle française, il va entendre le français, apprendre à parler français. C'est toujours le bilinguisme précoce, mais enfin, il aura déjà une petite base dans sa première langue. Mmh. Et ensuite, on parle de bilinguisme tardif à partir de 6-7 ans. Puisque là, les stratégies, les mécanismes sont différents. Les mécanismes d'apprentissage sont différents. Cet enfant va aborder la seconde langue comme un objet, un problème à résoudre en tant que langue étrangère. Donc, il va partir de ce qu'il connaît de sa langue. Il sait déjà comment fonctionne une langue. Il va essayer de deviner en comparant toujours avec sa langue maternelle.
Alors, je vous propose tout de suite de partir du côté d'Orléans. Elisabeth nous a appelé, elle a composé le 3210. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelés.
Bonjour à toutes les deux, oui.
Alors, Elisabeth, vous avez trois petits-enfants. Est-ce que vous parlez toutes les langues qu'ils parlent, eux aussi? Vous leur parlez dans quelle langue, vous?
Bien sûr, parce que quand je les ai en webcam, puisque moi j'habite Orléans, mais eux habitent la Nouvelle-Orléans.
C'est
en
pas la même chose. Ouais.
Et bien sûr, je leur parle soit en américain et soit en espagnol, puisque ils sont donc trilingues.
D'accord, donc leur maman est française, leur papa espagnol, et évidemment, ils vivent dans un environnement américain.
Et j'écoutais tout à fait ce que vous disiez. La grande, donc ils sont partis il y a 5 ans. Donc la grande, qui a 12 ans, était à l'école française, donc parlait français. Ma fille leur a toujours parlé en anglais, puisqu'elle a fait ses études aux États-Unis.
Oui.
Et le père leur a donné quelques petites notions d'espagnol.
D'accord.
Talula, la deuxième, idem, puisqu'elle est partie, elle avait 2 ans. Alors que le petit dernier, ma foi, il est parti, il avait 2 mois. Donc, il est donc arrivé aux États-Unis. Et ma fille a eu la chance de trouver une nounou espagnole là-bas.
Mm-hmm.
Donc, si vous voulez, il a été tout de suite à la fois dans l'américain, l'espagnol et le français. Alors, comme je disais à l'une de vos standardistes, il y a une règle à la maison. À l'extérieur, on parle américain. Dès qu'on passe le seuil de la porte, on parle français. Ou espagnol. Voilà.
Et est-ce que vous avez, vous, Elisabeth, été un petit peu inquiète quant à l'apprentissage justement de ces langues, et notamment pour le petit dernier ou le second qui doit apprendre aussi sa langue maternelle, en tout cas le français?
Pas du tout. Pas du tout, parce que, comme j'ai dit, ma fille est professeure de français, espagnol, russe et chinois là-bas à la Nouvelle-Orléans.
Oui, d'accord. Donc ça aide.
Si vous voulez, elle a déjà, Non, ce qui me fait le plus mal au cœur, en tant que bonne française, si je peux dire, c'est que tous les matins, je parle de la Louisiane, je ne parle pas des autres États des États-Unis. Tous les matins, ils ont l'hymne américain. Et mes petits-enfants connaissent beaucoup mieux l'hymne américain que la Marseillaise.
Ah bah ça...
C'est ça qui me coinsouille.
Ça, si vous voulez. Coinsouille, parce que ça fait effectivement partie des mots français, coinsouiller. Mais oui, j'entends, effectivement. Et alors, est-ce que vous avez peur, du coup, que l'intérêt pour la langue française ou pour la France leur échappe? Est-ce que vous avez peur que vos petits-enfants portent un intérêt supérieur à d'autres nationalités ou d'autres pays?
Non, pas du tout, parce que vous voyez, là, c'est leur anniversaire dans peu de temps, et là, je suis en train de faire mes courses, voyez, et je leur achète que des livres en français sur l'histoire de France, sur les châteaux de la Loire, bien sûr, là, j'ai pris un jeu pour Noël sur l'histoire de France. J'essaye, si vous voulez, de leur donner quand même la culture française, je vais dire.
Oui, mais ça, c'est bien, parce que ça veut dire... Non, mais je disais, je vais me tourner vers Barbara, Elisabeth, mais c'est vrai que Barbara, il y a un avantage à parler plusieurs langues. Déjà, c'est de s'ouvrir sur d'autres nationalités, s'ouvrir sur d'autres mondes, des ailleurs. Donc, ça ouvre évidemment l'esprit. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'Elisabeth nous explique qu'il y a des règles. On parle américain en dehors de la maison et on va parler français et espagnol à l'intérieur. Ça fait partie du bon apprentissage d'une langue étrangère.
Non, je ne dirais pas ça. Je ne donne pas de recette. Il n'y a pas de recette.
C'est à chaque fois du sur-mesure,
chaque
en fait.
Famille, exactement, c'est du sur-mesure. Chaque famille doit établir sa propre, entre guillemets, politique linguistique.
Oui.
Et ça, c'est une des méthodes de dire, surtout quand on a deux ou trois langues, quand on a plus de deux langues, trois langues, c'est pas mal de dire, la langue de dehors, la langue du pays, on la parlera tous dehors, et à l'intérieur, on garde nos deux autres langues, ou une autre langue. Ça dépend des familles, mais c'est une bonne chose pour séparer. Mais il y a d'autres familles où la langue de l'environnement rentre très vite et très facilement à l'intérieur, et puis tout le monde parle joyeusement les trois langues. C'est envisageable aussi.
Bon, en tout cas, Elisabeth, je vous remercie vraiment de nous avoir appelé.
J'allais dire, quand ils vont se rouspéter entre eux, ils vont se le faire en américain, même en France.
En américain, ça y va, quand même. il y a la langue, il y a des langues aussi qui sont un petit peu plus pratiques, effectivement, pour une bonne engueulade. Bon, Elisabeth, je vous remercie. Bonne course de Noël, je vous embrasse.
Et
à bientôt.
Merci.
Au revoir, Elisabeth.
Au revoir.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Barbara Abdelila Bauer est aujourd'hui notre invitée. Avec elle, nous parlons du bilinguisme. Alors, Barbara, on vient de parler avec Elisabeth. Elisabeth soulignait quelque chose. Pas sa peur que ses petits-enfants qui vivent à la Nouvelle-Orléans, qui parlent français, espagnol et donc américain, oublient le français. Mais en même temps, elle tient un rôle en tant que grand-mère assez intéressant. Elle est garante, finalement, des origines françaises de ses petits-enfants qui vivent à l'étranger. On retrouve ça fréquemment ?
Oui, nous, les grand-mères ont un rôle très important jouer et heureusement qu'il y a maintenant Skype, qu'il a vraiment ces nouvelles technologies où on peut avoir les petits-enfants ou la grand-mère, on peut la voir, on peut lui parler et c'est extrêmement important parce que les enfants s'ils sont à l'étranger, ils entendent plus, il n'y a que la maman qui parle français par exemple comme dans ce cas-là, mais le français va devenir minoritaire et plus ou moins disparaître au fil des ans et le fait d'avoir une grand-mère qui vit en France et qui leur envoie des cadeaux et des livres en français, etc. Et c'est vrai, elle est un peu garante de ce lien et de la culture française. Il n'y a pas que la langue, il y a toute la culture et les pratiques. Et je rencontre souvent des mamans aussi ou des parents d'une manière générale qui ont très peur que leurs enfants s'éloignent, leur deviennent un peu comme des étrangers parce qu'ils s'intègrent dans une culture ou dans une société qui n'est pas la leur. Malheureusement, enfin, je trouve que c'est naturel et il faut accepter cet état de choses. Forcément, quand on vit à l'étranger et on a des enfants qui naissent dans ce pays-là, ils grandissent, ils connaissent mieux les traditions, les valeurs de ce pays que nous qui sommes venus en tant qu'étrangers dans ce pays. Et donc, ça va beaucoup plus loin que la langue. C'est toute une culture, des valeurs, des manières de faire, des manières de se tenir, de saluer, etc. Tout ça va ensemble.
Et puis, la langue maternelle est le socle également, je dirais, quelque part, d'une identité. Un message sur le blog de Clarica. Mes enfants sont trilingues via papa, maman, l'école. Ils maîtrisent parfaitement deux autres langues apprises à l'école. Le plurilinguisme développe des compétences et une souplesse du langage que les monolingues, y compris les enseignants, ne comprennent pas toujours. Ouais. Valorisons les langues premières des enfants immigrés et ils réussiront à l'école. Et puis on a différents messages comme ça où effectivement on a le sentiment que la langue maternelle, en tout cas dans le cas de familles immigrées, constitue le socle de la personnalité, de l'identité d'un enfant.
Mais La langue, de toute façon, notre langue, ça fait partie de notre identité. Ce que nous avons appris, ce qu'on nous a transmis, qui a été transmis par nos parents, ça fait partie de nous. Je parle telle langue et je ressemble à mes parents parce que je parle la même langue. Donc,
je sais
à la
je
question
viens.
Qui suis-je, voilà, je sais d'où je viens. Mais bon, cette langue maternelle, elle peut être double aussi. Il peut y avoir deux langues maternelles, si le père et la mère parlent une langue différente. Et souvent, la langue maternelle, elle peut aussi s'oublier. Elle peut disparaître au profit d'une autre langue qui s'implante, qui devient majoritaire et plus dominante.
Qui devient majoritaire. Marcel Ichou, vous voulez dire
quelque chose ? Oui, d'un point de vue scientifique, la langue, elle structure l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire, elle structure le cerveau. Il y a des aires de la parole qui sont des aires de production et de mémorisation de la parole. Donc ça, c'est vraiment la relation avec le cerveau. Elle structure la pensée. On ne pense pas de la même façon dans une langue et dans une autre. Mais elle structure aussi l'identité et les symboles. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de ne pas apprendre des langues. Et au contraire, tout montre que c'est enrichissant. En revanche, il y a toujours les mêmes obstacles, les mêmes préjugés, puisque c'est symbolique de son identité. Et il y a des langues chics et des langues qui le sont moins. Et c'est ça le vrai problème, c'est que l'anglais est vraiment le must et tout le monde veut que les enfants parlent anglais. Et on l'est moins sur d'autres langues peut-être plus anecdotiques, alors qu'elles ont la même fonction.
Il y a le mode sur l'apprentissage, il y a des modes sur l'apprentissage des langues étrangères.
Bien sûr, la mode, si vous voulez, enfin la langue que tout le monde veut parler, c'est l'anglais. Parce qu'on dit que c'est un signe de réussite, enfin c'est une garantie pour la réussite.
Les cultures.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est même pas la culture, c'est l'anglais. Tout le monde veut parler l'anglais et on a l'impression que le plus on commence tôt à apprendre l'anglais à nos enfants, plus ils vont être performants. Mais quelque part, c'est vraiment dommage parce que imaginez si dans 15-20 ans on parle tous que anglais, ça sera comme si on était monolingue.
Voilà, et d'où l'intérêt tout à l'heure, effectivement, du message de Yabi qui disait on peut aussi apprendre des langues régionales, effectivement.
Bien sûr, les langues régionales ont aussi tout à fait une valeur dans l'ouverture des esprit de l'enfant, dans cette gymnastique intellectuelle que l'enfant va acquérir en jonglant avec deux langues différentes. Et tout ça, c'est une langue régionale. Et en plus, la langue régionale, je trouve, elle est vraiment ancrée dans une région, dans une tradition, dans une culture. Donc elle a un sens, cette langue.
Bien sûr, elle a un sens et puis elle perpétue évidemment l'histoire et ça c'est extrêmement important.
Et elle donne une ouverture vers autre chose après, vers d'autres langues, alors que l'anglais pour beaucoup n'a pas de sens.
Est-ce que le fait justement pour certains de savoir parler une langue étrangère donne d'autres capacités à apprendre d'autres langues?
Alors les bilingues, en général, on dit qu'un bilingue, quelqu'un qui est vraiment bilingue, il a plus de facilité, un enfant a plus de facilité d'apprendre d'autres langues. C'est à nuancer, ça dépend de la langue. Bon, un bilingue français-anglais, français-allemand par exemple, comme c'était mes enfants, ils ont énormément de facilité d'apprendre l'anglais. Donc le bilingue a plus de facilité d'apprendre une langue qui est proche des deux langues qu'il maîtrise déjà parfaitement. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est la motivation. L'enfant bilingue, vous pouvez pas le mettre dans une classe de russe par exemple, s'il ne voit aucun intérêt à cette langue.
On ne force pas
pour
ça.
Le bilingue. Non, pour le bilingue plus que pour un monolingue pour qui c'est peut-être juste une matière d'apprentissage, l'enfant bilingue pour lui une langue sert à communiquer. Et s'il a envie de communiquer, s'il voit un intérêt à cette langue russe, il va apprendre très facilement le russe.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un instant. Nous allons parler effectivement des préjugés qui courent sur le bilinguisme. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Quel intérêt d'apprendre à parler une autre langue si jeune quand on sait que beaucoup d'élèves ont de grosses difficultés pour apprendre le français avec toutes ces règles, nous écrit Eric qui réagit au sujet du jour sur le bilinguisme. Alors Eric doit être évidemment à l'écoute, comme chaque jour je pense, de notre émission. Barbara Abdelila Bauer, vous êtes donc notre invitée. Quels sont les préjugés qui courent justement, qui galopent sur le bilinguisme?
Mais c'est un des préjugés ou une des idées reçues est celle de dire qu'un enfant qui a une autre langue maternelle que le français, il ne va pas apprendre correctement le français. Donc, on imagine que la langue maternelle va être un frein à l'apprentissage du français. Ça, c'est parce qu'on imagine que le cerveau n'est pas capable d'emmagasiner en même temps deux langues. Voilà, ça, c'est un préjugé. Et on dit que c'est une surcharge pour l'enfant. Voilà. L'autre, c'est que l'enfant, il a la peur de la confusion. C'est de dire l'enfant qui mélange les deux langues, alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel durant la phase d'acquisition des deux langues, acquisition du langage.
C'est-à-dire dire où est le cat, où est le chat, où est le cat, voilà, de mélanger en fait les deux langues.
Et là, on imagine que c'est une confusion de la pensée et les parents souvent ont très peur que ce mélange ça reste, que quelque chose qui est acquis, ils pensent que c'est une erreur et ça va rester. Voilà, ça c'est donc le mélange. Le retard de langage aussi. On dit un enfant qui grandit avec deux langues en même temps, il aura un retard de langage. Donc parce que son cerveau, justement, comme c'est une surcharge, il va être plus lent pour apprendre à parler. Et tout ça, ce sont des idées reçues qu'il est très très difficile à combattre, malheureusement.
Alors Daniel tenait à parler avec nous et à nous apporter son témoignage. Il a appelé le 3210 de Saint-Étienne. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci Daniel de bonjour, nous avoir appelé. Vous avez deux petits-fils, Daniel, de 3 ans et 1 an, donc des petits bouchons. Et vos petits bouchons, ils sont bilingues?
Alors, l'aîné donc est en Angleterre déjà depuis 2 ans. Mmh. Et le second est né en Angleterre, mais forcément à 1 an, il ne peut pas parler.
Bien sûr.
Par contre, ce que je voulais rajouter, c'est que lorsqu'il y a un passage donc un peu plus long en France pour des vacances par exemple, eh bien l'aîné a quelques difficultés lorsqu'il revient en Angleterre à s'exprimer et il arrive à bégayer pendant on va dire un mois à peu près parce que lorsqu'on l'a sur Skype avec sa grand-mère, on s'aperçoit de ses difficultés. Donc il y a c'est une éponge certes, mais le retour donc à la normalité anglaise se fait quand même avec quelques difficultés. Après un mois tout va bien, mais pendant un mois il y a quand même quelques difficultés.
Alors Daniel, est-ce que déjà au quotidien, même en Angleterre, il est partagé entre le français et l'anglais?
Absolument, puisqu'il va à la nursery matin et après-midi. Donc là, c'est de l'anglais en permanence. Et avec ses parents, il s'exprime en français, puisque ses parents sont français tous les deux.
D'accord. Alors, Barbara, est-ce que vous, c'est quelque chose de relativement classique, cette réadaptation?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. L'enfant, il est jeune, hein, l'enfant a 3 ans, donc il est en pleine acquisition du langage, encore une fois, en deux langues. Et en général, s'il vit en Angleterre, donc la langue anglaise est dominante. ils parlent de manière très courante l'anglais, et le français est un peu laissé
en second plan, en tout cas au quotidien.
Et donc il est forcément développé moins rapidement et moins développé que l'anglais. Alors ça s'inverse dès que l'enfant arrive en France, il est dans un environnement complètement francophone, et donc c'est le côté, le volet francophone de son langage qui va se développer, qui va s'accélérer. Et on constate, on retrouve ça chez tous les enfants quand ils changent d'endroit et quand ils changent de langue. L'autre langue, elle se met un peu en retrait, donc pour lui, c'est l'anglais, ça ralentit. Et quand il revient donc en Angleterre, c'est comme s'il avait tout oublié, les premiers jours, les premières semaines, c'est normal. Et ensuite, il va revenir et continuer à développer l'anglais.
Donc en fait, vous voulez rassurer Daniel, parce que vous êtes un grand-père inquiet, Daniel ?
En père inquiet, simplement, je voulais avoir une indication sur l'acquis dont il va pouvoir bénéficier, parce qu'ils sont expatriés peut-être pour 3 ans, peut-être pour 6 ans.
Oui.
Est-ce qu'il restera quelque chose de cette acquisition du bilinguisme au bout de 6 années, ou est-ce qu'il va perdre cette notion qu'il aura très ancrée de la langue anglaise?
Est-ce que ça s'entretient, justement, Barbara?
Alors, justement, un enfant peut apprendre très facilement une nouvelle langue quand il est en expatriation, là, comme c'est le cas, mais, plus tôt et plus vite une seconde langue est apprise, et plus vite elle peut être complètement oubliée si elle n'est pas maintenue après, malheureusement. Donc on dit qu'il faudrait que l'enfant arrive à 6-7 ans et commence à apprendre à lire et écrire dans cette seconde langue, et là, il va avoir moins de risques d'oublier complètement cette langue. Mais si l'enfant revient après 6 ans, il faut essayer de continuer et de maintenir cette langue.
Donc après, il faut un enseignement, il faut mettre les enfants dans des écoles bilingues ?
Oui, ou bien des ateliers ou une babysitter, ou au moins une fois par semaine un atelier en anglais pour tout faire pour maintenir la compétence.
Marseille.
Oui, pour rassurer Daniel sur le bilinguisme, il n'y a aucun problème, ça n'apportera aucun handicap. En revanche, le bégaiement peut être le témoignage simplement d'un changement.
Oui, d'un petit stress.
D'un petit stress et pas du tout lié au problème de changement de langue.
Oui. Bon, Daniel, en tout cas, j'espère qu'on a pu vous répondre un petit peu. Merci de nous avoir fait partager votre expérience.
Et, moi qui vous remercie.
Et puis, à très vite. Vous restez avec nous sur l'antenne RTL, évidemment.
Bien sûr.
Merci beaucoup, en tout cas, Daniel. On vous embrasse.
Merci à vous. Merci.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Toujours avec vous.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
RTL, toujours avec vous, et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 16h. Barbara Abdelila Bauer, on venait de parler avec Daniel. Daniel nous expliquait que ses petits-enfants vivaient actuellement en Angleterre et se demandaient si effectivement, quand ils rentreraient en France, ils pourraient conserver tous leurs acquis pendant leur séjour à l'étranger. Après on rentre vraiment dans un système d'éducation, c'est-à-dire que pour maintenir une langue, il faut trouver des écoles bilingues. Oui. Et là, c'est vraiment le parcours du combattant, j'ai l'impression. Il y a Gianni qui nous écrit un message sur le blog. Je suis ravie du thème de l'émission d'aujourd'hui et toujours déçue de l'inertie de l'administration face à la demande sans cesse grandissante de parents d'enfants bilingues qui ne peuvent continuer l'apprentissage de la langue. Seulement 180 places à l'entrée en 6e pour toutes les langues dans les collèges à Paris pour plus de 2 millions d'habitants. Demandons l'ouverture de sections internationales partout en France. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, les parents d'enfants bilingues ne sont pas soutenus finalement dans leur démarche ?
Ah, exactement, bien sûr, oui. Et là, on parle que de l'anglais, hein, en général, enfin pour le grand-père dont l'enfant est en Angleterre, mais pour toutes les, bon, pour l'anglais ça va un tout petit peu, il y a 180 places, mais après il y a toutes les autres langues, il y a de l'espagnol, enfin il y a des langues européennes et extra-européennes, et non, il n'y a rien qui est fait pour des enfants bilingues de famille ou de naissance, absolument rien.
Contrairement visiblement à la Belgique que l'on embrasse, où l'on reçoit énormément de messages, où on nous explique que les enfants sont toujours poussés à devenir bilingues dès le début de leur scolarité. Donc ça veut dire aussi qu'il faut maintenir la langue dans le cadre de l'environnement affectif et de l'environnement familial de l'enfant.
Ah oui,
c'est un investissement quotidien, finalement, des parents.
C'est un investissement sur plusieurs années. Enfin, normalement, après, dans le cas idéal, on commence dès la crèche.
Oui.
Ensuite, on continue en maternelle, à l'école primaire, et on continue jusqu'au bac, dans une filière bilingue. Ça, c'est l'idéal.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant aux parents qui nous écoutent, qui ne parlent qu'une seule langue à la maison et qui aimeraient que leurs enfants deviennent bilingues. Alors, je tiens à vous préciser que l'émission nous a un petit peu échappé aujourd'hui, tant vous avez été nombreux à réagir. Donc, on refera une émission sur ce thème-là, sûrement précis, un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il est possible de rendre un enfant bilingue quand la famille est monolingue ? Alors, silence.
Oui, difficile.
Non.
Si on a la chance d'avoir une nounou, par exemple, qui garderait l'enfant, une assistante maternelle qui parle une autre langue que français, pourquoi pas ? Cette assistante maternelle peut parler, c'est pas nécessaire que ce soit l'anglais, sincèrement, espagnol, arabe, n'importe quelle autre langue, veut que l'enfant est en contact avec cette personne et crée des liens affectifs avec cette personne tous les jours, régulièrement, il va devenir bilingue avec cette langue.
Donc cette langue, en tout cas l'apprentissage d'une langue étrangère, passe systématiquement par une personne et par l'affect.
Tout à fait, exactement. Un enfant apprend à parler en interaction avec des êtres humains et pas avec un ordinateur ou avec la télévision. Et pour savoir pouvoir parler une nouvelle langue, une langue étrangère, il faut un être humain. Et il faut aussi, pas seulement l'être humain, mais cette personne doit être souvent avec cet enfant. Une demi-heure par jour ou par semaine, ça ne suffit pas. À la limite, une heure par jour, c'est encore mieux. Mais disons que c'est une entreprise vraiment longue. À long terme, il faut envisager le bilinguisme de l'enfant, l'apprentissage précoce d'une langue étrangère sur plusieurs années.
Un enfant peut-il apprendre plusieurs langues quand la famille est monolingue ?
C'est encore plus difficile, c'est toujours cette histoire de temps. On n'a pas le temps. Bon, mettre l'enfant dans un atelier d'anglais une heure par semaine, ensuite dans un atelier d'espagnol encore une autre heure par semaine, ça, j'appellerais ça du saupoudrage. C'est de l'éveil linguistique, c'est autre chose. C'est une très bonne chose aussi parce que l'enfant va apprendre à qu'il existe différentes manières de s'exprimer. Il va peut-être développer une curiosité pour d'autres langues et avoir envie plus tard à réellement apprendre cette langue, mais il ne va pas apprendre à parler. Tout dépend de ce qu'on veut, en fin de compte.
Est-ce que vous pensez que demain, alors que le monde, évidemment, est en train de bouger, on en parle tous, les frontières tombent, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, maîtriser plusieurs langues est un moyen peut-être de survivre dans une société qui est de plus en plus compliquée?
Ah oui, je pense. De toute façon, depuis longtemps, on a besoin de plus en plus, on a besoin de parler d'autres langues. Pas tout le monde, mais la majorité des personnes aujourd'hui qui cherchent du travail ont besoin de parler d'autres langues et pas seulement l'anglais. Et vous savez, on est en Europe, il y a 27 langues officielles et le but de les recommandations de l'Europe sont justement que chaque citoyen parle deux autres langues, donc sa langue maternelle et deux autres langues des pays voisins. Donc il ne faudrait pas être bilingue mais trilingue au moins.
Voilà, alors en dehors évidemment de ce défi qui est d'apprendre deux autres langues que notre langue maternelle, il est vraiment quelque chose qui revient énormément dans les messages que je reçois et avec lequel je suis absolument d'accord, c'est que du coup, non seulement c'est formidable de pouvoir parler d'autres langues, de communiquer avec l'autre, ça ouvre terriblement l'esprit.
Ah bien sûr.
Ça fait partie de, je dirais presque, l'avantage, le caractère merveilleux du multilinguisme, c'est quand même cette idée de savoir que les autres existent aussi dans leurs différences.
Oui, tout à fait. Qu'on peut exister, être différent, penser différemment, s'exprimer différemment, que avoir des pratiques totalement différentes, tout simplement parce qu'on a une autre langue, parce que chaque langue décrit le monde à sa façon et les pratiques, les traditions, les habitudes sont complètement différentes en fonction de la langue. Je disais tout à l'heure la manière de saluer, la manière, les formules de politesse, tout ça fait que si on est bilingue ou plurilingue. On est aussi plus souple au niveau de ses habiletés culturelles ou de ces pratiques-là. Et ça ouvre l'esprit et ça relativise aussi les choses. Et plus on connaît de langues, plus on voit qu'il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Et au bout, il y a un peu plus de tolérance peut-être.
Exactement. Ce que j'allais terminer là-dessus, évidemment, ça rend forcément un peu plus intelligent et tolérant. On se retrouve dans un instant pour conclure cette émission. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Marcello, je suis d'abord vraiment surpris par cette avalanche de questions,
de
d'interrogations. Mais au-delà de ça, la réflexion que ça m'inspire, c'est que ça va bien au-delà de l'efficacité. Très souvent, on parle du bilinguisme pour être plus efficace, plus performant. C'est une richesse de l'humanité. Chaque langue est un morceau d'humanité. Et les grands linguistes sont des gens qui sont passionnants. On en a un en France qui s'appelle Claude Agé, je crois, qui est reconnu mondialement. Et c'est vraiment magnifique. Et chaque langue morte ne peut revivre que si elle est incarnée dans des émotions. Et c'est pour ça que les gens qui veulent refaire partir une langue partent en l'apprenant aux enfants, parce qu'il n'y a qu'avec ces émotions, le son de la langue maternelle qui peut vous donner cette transmission.
Barbara, Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Tous nos auditeurs, justement, qui veulent poursuivre cette conversation, ils peuvent retrouver votre ouvrage, Le Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues. C'est vraiment très pratique et intéressant, aux éditions La Découverte. Et puis, vous avez également un site internet sur lequel ils peuvent se rendre.
Oui, tout à fait. Je réponds aux questions et je conseille les parents. Enfin, c'est un peu vraiment mon habitude. Le site s'appelle bilinguisme-conseil.com.
Voilà, et vous retrouverez cette adresse sur la page Facebook de notre émission. Merci beaucoup, Barbara Delila Bauer. Marcello, see you tomorrow. Hein? Voilà, excusez-nous, on parle West Pleasure. Voilà, nous on reste sur l'anglais. Mais demain, nous allons recevoir la naturopathe Alessandra Moro-Buronzo et avec elle, nous allons parler de ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère qui font leur grand retour dans la vie des Français sans en aucun cas, bien sûr, supplanter la médecine traditionnelle. Alors, bouffées de chaleur, maux de tête, fièvre ou encore piqûres d'insectes, ils apaisent nos petits maux avec des produits naturels en se trouvant à portée de main. Alors, que valent les remèdes d'antan? Comment profiter de cet héritage? Des remèdes de grand-mère vous ont été transmis, vous les utilisez au quotidien pour vous, pour vos enfants. Ces remèdes vous laissent sceptiques, eh bien on en parle dès maintenant, plutôt demain à 15h, hein. Mais vous pouvez dès maintenant appeler le 3210 ou laisser un message sur le blog ou la page Facebook de cette émission. On se retrouve donc demain en direct dès 15h sur RTL, tout de suite des remèdes de grand-père, non je rigole, allez voici Philippe Bouvard et les grosses têtes. Elle était facile, je vous l'accorde. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.